Bonjour. On n'est pas bien nombreux ce matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eh bien, on va essayer de s'encourager hein, ce matin. Je vais prier aussi. Seigneur, je veux te remercier aussi pour ta parole. Merci Seigneur pour m'avoir donné ce message. Merci Seigneur aussi, je te prie ce matin, en ayant une pensée aussi pour tous nos frères et sœurs qui passent par l'épreuve, par les difficultés. Je te prie de nous encourager ce matin. Je te demande de nous fortifier, de nous faire du bien. Que ta parole nous donne la bonne nourriture, celle qui vient d'en haut, pour que nous puissions aller le plus loin possible avec toi. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, je voulais vous parler du découragement. Il y a 15 jours, je vous ai parlé de la culpabilité. Et là, je voudrais vous parler du découragement. Un peu, comme on a parlé un peu Élise, parlant de cette femme qui ne s'est pas découragée d'ailleurs, qui a insisté. Et je voudrais vous parler du découragement qui touche tout à chacun, quelles que soient nos années de marche avec le Seigneur, quels que soient les dons que nous avons reçus, un jour ou l'autre, le découragement nous touche. Le découragement se manifeste souvent aussi par de la fatigue, de la déprime, surtout quand les épreuves, des fois, n'en finissent plus. Et nous nous retrouvons à manquer de force psychologique et surtout spirituelle pour affronter les problèmes que nous rencontrons, les situations que nous pouvons rencontrer. Et cela va se ressentir, se répercuter sur notre marche avec le Seigneur, sur nos moments de méditation, sur nos temps de prière, sur notre lecture de la parole de Dieu, où on va baisser les bras et se décourager, ne voyant pas les choses arriver. Et parfois, il nous faut surmonter des épreuves qui, des fois, durent pendant des périodes plus ou moins longues et difficiles, en se demandant quand est-ce qu'on verra le bout, quand est-ce que ça va s'arrêter. Nous pouvons être découragés. C'est parfaitement humain. Ça fait aussi partie de chacun d'entre nous. Le découragement, bien sûr, touche le monde. Beaucoup de gens sont découragés, mais ça touche aussi les chrétiens. On n'est pas épargné par le découragement dans notre marche spirituelle. Et même les chrétiens, le plus fidèle que vous pouvez trouver, auquel vous pouvez penser, l'homme de Dieu dans ses plus hautes sphères, on va dire, peut se décourager. Dans l'épître de Jean, 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 19, il nous rappelle que ce monde dans lequel nous vivons appartient à Satan, au diable. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Devons faire avec, vivre au milieu de cela, être des lumières qui marchent dans les ténèbres pour éclairer ceux qui le sont encore. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Mais la parole de Dieu nous dit que, et nous rappelle que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous pouvons vivre des épreuves, des difficultés, des luttes, des combats, des batailles. Le Seigneur a remporté la guerre. Et ces luttes, ces combats, ces batailles, ça peut nous user. Je vais vous parler de deux personnages, Élie et Asaph. Dans 1 Roi au chapitre 17, à partir du verset 1, Élie va rencontrer le roi Achab, qui lui-même est marié avec son épouse Jézabel, qui était plus Jéza que Belle de l'intérieur. Il va vers le roi Achab et lui dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. » Des fois, c'est pas plus mal hein, de pouvoir rappeler son identité à ceux qui nous entourent, de leur rappeler que nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Il ne dit pas « je suis le serviteur du roi Achab ». Pourtant, le roi, il avait certainement des serviteurs. Non, non, il dit « je suis le serviteur de l'Éternel ». Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole, à la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots « Pars d'ici ». Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin et le soir. Ensuite, au verset 9, l'Éternel lui dit « Lève-toi, va à Sérapta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Femme veuve qui était pauvre, pas grand-chose à manger, il n'y avait pas grand-chose à part une poignée de farine et un petit reste d'huile qui lui restait, juste pour elle et son enfant. On se rend compte qu'à chaque fois, Dieu va pourvoir à ses besoins. Occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupe de tes affaires. Il prend soin de toi. Et Dieu prend soin de lui. Et à chaque fois, il lui pourvoit à ses besoins. Cette femme veuve n'avait pas grand-chose à manger, et puis elle va lui dire que ben « Écoute, il me reste que ça, je vais le manger, et après je vais mourir, parce que après j'ai plus rien. » Et Élie va encore opérer, avec l'aide de l'Éternel, un miracle. Chaque fois qu'elle puisera de la farine, chaque fois qu'elle puisera de l'huile, il y en aura toujours, ça continuera toujours, ça ne s'épuisera pas. Ensuite, une fois que ce problème est réglé, un autre problème arrive. Cette femme a un fils, il est frappé par une maladie. Et sa maladie est tellement violente qu'il en meurt. Son fils meurt, Élie, encore une fois, conduit par la foi, prend l'enfant et le ramène à la vie. Et cette femme va reconnaître en Élie un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Ensuite, dans ces passages, chapitre 19, on va retrouver Élie face au prophète de Baal, où il va lancer un défi à 450 prophètes de Baal. Chacun un taureau, et il va demander à ce que leur Dieu puisse consumer ce taureau par le feu. Et l'histoire nous dit que ces prophètes de Baal se sont déchaînés dans tous les sens et jusqu'à se taillader jusqu'au sang pour appeler leur dieu Baal pour qu'il puisse consumer cet holocauste. Mais il ne s'est rien passé. D'ailleurs, ce passage nous dit que même Élie se moquait d'eux. Alors Élie, à son tour, va prendre le taureau. Et lui, il va rendre la chose beaucoup plus difficile et compliquée. Il va mettre le taureau, il va mettre du bois, des pierres, du sable, tout ce que vous voulez. Il va faire une fosse et il va la remplir d'eau. Il va arroser tout ça d'eau. Et il va invoquer l'Éternel et le feu de l'Éternel va descendre sur cet holocauste. Et il va tout consumer. La pierre, le sable, l'eau, il ne restera rien. Dieu est intervenu. Et les prophètes de Baal ont vu que l'Éternel était un Dieu tout-puissant. Par la suite, Élie va exterminer les prophètes de Baal. Et une fois qu'il les aura exterminés, cela va arriver aux oreilles de Jézabel. Et elle va se mettre en colère. Elle va faire envoyer un messager pour menacer Élie. Et elle va lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. En gros, si je n'ai pas ta peau, je vais te le faire payer. Ce que tu as fait à mes prophètes, je vais te le faire payer. Ensuite, ce qui se passe, c'est que dans le chapitre 3 du verset 19, là, on rencontre un autre homme. Élie, voyant cela, se leva et s'enfuit pour sauver sa vie. Dans d'autres traductions, on lit « Élie prit peur et s'enfuit. » Voyant cela, d'un seul coup, c'est plus l'homme qui marche par la foi, mais c'est l'homme qui marche par la vue et par ce qu'il entend. Il prend peur. Celui qui a, par la puissance de l'Éternel, fait descendre le feu du ciel, il prend peur. Il s'enfuit. Il s'enfuit dans le désert. Il va marcher pendant une journée de marche dans le désert pour s'isoler, se cacher, pour fuir. Il va trouver un genêt, espèce d'arbre. Pour certains, ce genêt symbolise le désert, la solitude, l'amertume, le découragement. Et là, non seulement il va s'isoler, il va se mettre à l'ombre de ce genêt, mais en plus il va demander la mort. Il peut arriver à de très grands serviteurs de Dieu, quel que soit. Enfin, quand je dis très grand, on se comprend. Car c'est par grâce, hein, évidemment, de demander la mort. Ça peut arriver. Tellement qu'on est épuisé, découragé, fatigué. Seigneur, prends-moi, j'en ai marre, je suis fatigué, j'en peux plus, j'arrive pas avec ça, j'arrive pas avec ceci. Allez, prends-moi, prends quelqu'un d'autre et puis prends-moi, comme ça je me retrouve avec les seigneurs. Et voilà. Élie demande la mort. Il dit c'est assez. J'en ai pas le c'est assez, pas le poisson. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Au verset 5, il dit qu'il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. C'est incroyable cette différence entre l'homme de Dieu, qui va être nourri par des corbeaux, par une veuve, et le déprimé, le découragé. Eh bien, c'est Dieu qui se déplace lui-même, le Seigneur se déplace lui-même, l'ange de l'Éternel, lui-même, il n'envoie pas des corbeaux, c'est lui qui le nourrit, l'ange de l'Éternel. Il regarde et il y avait, au verset 6, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé et une cruche d'eau. Tu n'as même plus besoin d'aller te déplacer au torrent, je te ramène l'eau à domicile. Et un bon repas chaud. Il mange, il boit, et là on se dit, il va se lever, il va repartir. Ben non. Il nous dit qu'il se recoucha. L'ange de l'Éternel, au verset 7, vint une seconde fois. Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le Seigneur avait des projets pour lui. Et des fois, dans notre vie chrétienne, des fois le chemin il est long. On ne s'imagine pas des fois ce qui nous attend. Le Seigneur le sait que ça va être long. Il sait ce qu'il y a devant encore. Et nous, on vit le jour, et quand on passe par des moments difficiles, on sait que le Seigneur, il sait où, jusqu'où on doit aller, et il va nous aider à aller jusqu'au bout. Après cela, au verset 8, finalement, il se lève, il mange, il boit, et avec la force, nous dit la parole, avec la force que Dieu lui a donné à travers cette nourriture, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne du Dieu, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Chose incroyable. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette nourriture qui lui a donné une telle force, un tel courage pour marcher 40 jours et 40 nuits. La parole de Dieu est capable de nous faire faire des choses incroyables quand nous sommes découragés. Alors, les causes du découragement, eh bien, il y en a beaucoup, elles sont multiples. Et je vous parlais d'un autre personnage qui se trouve dans les psaumes. Le psaume 77. Ce personnage, c'est Asaph. Asaph a traversé plusieurs épreuves. Il a connu des périodes de doute, de difficultés, de deuil, de tristesse, de déprime, de découragement. Apparemment, c'était un musicien et chanteur. Il faisait retentir les cymbales devant l'arche de l'Éternel. Et le roi David lui-même lui avait donné la fonction permanente de jouer de la cymbale pendant le service divin. Il était chargé de jouer et de chanter devant l'Éternel. Pour chanter et jouer, c'est vrai qu'il est important d'avoir une bonne disposition de cœur. Dans le psaume 77, Asaph va nous faire passer du découragement à l'adoration. Je vais vous lire le psaume. Psaume d'Asaph, psaume 77, verset 1. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoute. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. C'est important ce qu'il dit. C'est pas seulement quand tout va bien que je cherche le Seigneur, mais au jour de la détresse, nous serions plus tentés à aller nous déprimer quelque part, à nous renfermer, au jour de la détresse, au jour où tout va mal. Je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Et là, les pensées négative arrive. Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde, toutes ces questions. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Ah bon? Elle n'est plus la même. Dieu est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, et pour toujours. Éternellement. Et au verset 11, ça bascule. On change de ton. Qu'est-ce qui se passe? Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles. Alors, est-ce qu'il a eu un moment d'Alzheimer et il ne se souvient plus, il a perdu quelque chose? Et là, il se souvient des merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de la pluie par torrents. Le torrent retentit dans les nuées. Et tes flèches volent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux. Et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Voilà ce dont je me souviens. C'est la prière d'un homme, au départ, inconsolable. Il cherche Dieu, mais il n'est pas consolé. Il est triste. Parfois, dans nos vies, c'est décourageant parfois, terrifiant voire même, quand on cherche Dieu dans notre découragement et qu'on essaye d'écouter Dieu et qu'on entend le silence. Quand on est éprouvé, quand on passe par des moments difficiles, on cherche la face de Dieu et on n'entend rien. Terrible. Malgré nos cris, malgré nos prières, et là il nous arrive toutes sortes de pensées, et des fois des pas très belles pensées. On remet en doute. Et son efficacité. On remet en question son action, son œuvre. On devient négatif, on devient humain, charnel. On ne regarde plus par la foi, mais on agit par nos ressentis, par nos douleurs. Asaph pense que Dieu a abandonné son peuple. Et que Dieu s'en moque. Non, il n'a pas abandonné. Et Dieu ne s'en moque pas. Mais le fait que Asaph pense cela, est-ce que c'est pour autant la réalité? Est-ce que nos sentiments, dans les moments de difficulté, de souffrance, de découragement, est-ce que nos sentiments reflètent la réalité? Peut-être que Dieu ne m'aime pas assez. Peut-être que je ne mérite pas sa miséricorde. Quand je prends mon café noir le matin, avec ma cuillère comme ça, je remue comme ça, et puis un jour quelqu'un m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu broies du noir ?» On broie du noir. Peut-être que Dieu a décidé à ce moment précis, où tout va mal, de ne plus s'impliquer dans ma vie, ou dans l'Église. Nous avons l'impression parfois que l'amour de Dieu fait du yo-yo. Ça varie en fonction des circonstances. Dans les moments difficiles, nous pouvons penser que Dieu à déserter nos vies. Mais t'es où, Dieu? T'es où? C'est pourquoi il est important de marcher par la foi, comme on l'a chanté, et non par la vue. C'est ce que Dieu nous demande. Mais t'es où, Dieu? Peut-être qu'on pourrait inverser justement, disant c'est plutôt Dieu qui dit t'es où? T'es où au moment de la détresse? T'es où? Quand t'es au plus bas, t'es où? Au verset 9 du chapitre 19, Élie est parti se cacher. Parce que pendant les 40 jours et 40 nuits où il a marché, c'était encore pour aller se cacher dans une caverne. Tout ça pour ça. Pour aller déprimer dans sa caverne. Au verset 9, il lui dit, et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et Dieu, il était où là? Ben, il était dans la caverne aussi. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Mais que fais-tu ici, Élie? Dieu est là, dans la caverne aussi. Qui était là le premier? Question. Si je vais à l'Orient, tu y es. Si je vais à l'Occident, tu y es aussi. Dieu ne se tient pas à distance dans nos souffrances, mais il nous accueille dans notre souffrance. Il est avec nous. Il est bon aussi de se rappeler qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous, comme Asaph, qui repassait dans sa mémoire. Asaph, malgré sa souffrance et malgré sa douleur, il repasse dans son cœur et dans sa mémoire, il se souvient, il se rappelle combien de fois Dieu a démontré sa fidélité envers le peuple. Il se souvient des prodiges de Dieu, que Dieu a opéré en Égypte. Il se rappelle que Dieu est saint, incomparable, tout-puissant, qu'il est souverain, libérateur. Il se rappelle qu'il est fidèle, qu'il est un protecteur et qu'il est le conducteur de son peuple. Asaph passe du découragement à l'adoration, à la louange. Asaph était découragé parce qu'il a perdu de vue l'œuvre de Dieu à un moment donné. Il a oublié un instant qui est son Dieu. Lorsque l'épreuve se prolonge, n'ayons pas peur de dire à Dieu ce que nous ressentons. N'ayons pas peur de dire à Dieu les sentiments qui nous habitent et à lui confier nos craintes et nos découragements. Dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, au chapitre 5, le verset 6 et 7, il nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Rappelons-nous qu'il est le Dieu souverain à qui rien, je dis rien, je dis, je redis, rien n'échappe. Même si nous ne comprenons pas tout, et nous ne comprenons toujours pas tout, Dieu nous a placés, et je le remercie pour cela, avec reconnaissance, Dieu nous a placés aussi dans une famille spirituelle. Car nous avons aussi besoin d'être entourés par nos frères et par nos sœurs dans la foi. Dieu a voulu l'Église pour que nous puissions nous encourager mutuellement et particulièrement dans les moments difficiles, dans les moments de découragement. Dans l'Épître aux Galates, il nous dit ceci, « Portez les fardeaux les uns des autres. » Nous sommes aussi appelés à réconforter ceux qui sont abattus. Nous vous en prions, frères, aussi, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. Nous sommes appelés à encourager. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous sommes appelés à consoler. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Je ne vous cache pas que notre bonheur spirituel est lié aussi à notre connaissance, à notre relation intime avec Dieu. Notre bonheur dépend de cette relation, de cette connaissance intime que nous avons avec Dieu. Je ne parle pas seulement d'une connaissance intellectuelle. On peut connaître beaucoup de choses de Jésus, savoir des choses sur lui, sur sa vie, sur ce qu'il a fait. C'est une chose. Mais le connaître lui, le ressusciter, eh bien, c'est vital pour notre vie spirituelle. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On a une vision faussée. On peut avoir une vision faussée de Dieu. Et cela en fonction de nos humeurs. Mais au contraire, si comme Asaph, nous restons attachés à ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, à la lecture de la parole, alors nous pourrons passer de la tristesse à la louange. Durant ces temps de découragement que nous pouvons avoir, et nous connaissons des frères, des sœurs qui peuvent passer par là, que Jésus lui-même nous aide à nous souvenir de ce qu'il a lui-même enduré. Lorsqu'il nous a donné sa vie pour nous qui étions pécheurs, pour effacer notre condamnation qui nous séparait de Dieu. Souvenons-nous de la croix où il a accepté d'être abandonné par son Père pour que nous ne soyons plus jamais abandonnés. Lorsque les nuages couvrent le ciel, nous ne voyons plus le soleil, et pourtant, le soleil est toujours là. Juste de l'autre côté des nuages. Et il continue d'envoyer sa lumière et sa chaleur. Et peut-être que sa chaleur, nous la sentons moins. Mais elle est toujours là. Dans les temps d'épreuve, nous pouvons avoir la certitude. Dans les temps d'épreuve et de découragement, nous pouvons avoir la certitude que notre Seigneur et Sauveur est toujours avec nous. Il est toujours présent. Il l'a promis. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde. Le monde n'est pas encore arrivé à sa fin. Il est encore avec nous. Il est tous les jours. Pas un jour par semaine. Pas une heure ou deux. Il est 24 sur 24, tous les jours avec nous. Même les pires épreuves qui peuvent nous arriver, rappelons-le, ne vont jamais nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Je finis par ces versets de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 35, 37, 38, 36. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors mes amis, quand nous sommes découragés, fixons nos regards vers celui qui peut nous encourager, vers celui qui peut nous donner la nourriture dont nous avons besoin pour nous fortifier, pour nous relever. Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui peut nous aider à traverser le pire des pires. Le pire des pires. À lui soit toute la gloire. Amen.